refrain ici de prêcher sur le sujet du sacrifice pendant tout ce carême, dans une année que le Saint-Père a voulu tout entière consacrer à la miséricorde. C'est qu'indépendamment de cette circonstance jubilaire, il semble que ce soit mal servir les vœux, je ne dis pas du vicaire de Jésus-Christ, mais bien de Jésus-Christ lui-même, que de parler de sacrifice autrement que pour en proscrire la pratique au nom justement des saints droits de la miséricorde. Vous vous souvenez dans l'Évangile comme notre Seigneur s'anime contre les pharisiens, grands pratiquants des sacrifices de la loi de Moïse. Il leur dit « Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. » D'où vient donc cette sévérité du Seigneur Jésus à l'endroit de la pratique du sacrifice? D'où vient que la miséricorde qu'il donne ici pour une part essentielle de sa prédication répugnerait si fort au sacrifice? Si vous me demandez, mes frères, ce que j'entends ici par miséricorde, je vous répondrai avec saint Thomas que la miséricorde appartient proprement à Dieu et qu'elle se manifeste dans les rapports de Dieu avec l'homme. Non point cependant l'homme innocent et immortel, tel que le Seigneur avait créé Adam, mais avec l'homme pécheur et souffrant, que nous sommes tous, en suite du péché de notre premier Père. À l'opposé de cette miséricorde, le sacrifice est un acte de l'homme, que l'homme destine pour Dieu. C'est ainsi qu'on peut dire que la miséricorde descend du ciel sur la terre, tandis que le sacrifice monte du ciel vers de la terre vers le ciel. Il est, en un mot, un acte de culte et de religion. Le sacrifice, toutefois, se distingue de cet autre acte de culte et de religion qu'est la prière, en ce que l'homme, par le sacrifice, prétend faire quelque chose pour Dieu et porter jusqu'au domaine de Dieu quelque chose qui ressortit d'abord au domaine de l'homme et qui, si l'on veut, est pris sur la richesse de l'homme. Au lieu que par la prière, l'homme publie devant son Dieu son indigence et sa faiblesse et demande à Dieu depuis sa détresse de le favoriser de ses secours, de ses grâces et de ses bienfaits, c'est-à-dire, en un mot, de sa miséricorde. Telle est la raison de la réprobation que une frange, en tout cas du christianisme, fait paraître pour le sacrifice. Demandez d'ailleurs à saint Irénée quel est le cœur de la doctrine chrétienne. Dieu s'est fait homme, dit saint Irénée, pour que l'homme devienne Dieu. Or, si l'homme est véritablement un Dieu n'offre pas de sacrifice. Ce serait contraire à sa condition divine. En revanche, il lui appartient justement de faire miséricorde. D'où les propos de notre Seigneur, par où il nous engage précisément à nous conduire en Dieu, c'est-à-dire comme le Seigneur Dieu lui-même. Soyez miséricordieux, dit-il, comme votre Père céleste est miséricordieux. C'est ce que nous trouvons au chapitre 6e de saint Luc, qui trouve son parallèle en saint Matthieu au chapitre 5e. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est qu'ainsi que le relève saint Thomas, la perfection du Créateur éclate dans sa miséricorde. Comme en lui, la toute-puissance s'accorde à la souveraine bonté d'un Père, il ne se laisse en rien troubler par le péché. Il sait que la victoire sur le mal est assurée. Sa justice, ne perdant rien à user de délai dans le châtiment, il fait, dit l'Évangile, lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. La charité prend patience, dit l'apôtre saint Paul. Elle attend le retour du pécheur. Si la miséricorde de Dieu interrompt le cours de ses prospérités temporelles, ce n'est que pour élever les bons dans l'ordre de la charité et donner aux méchants l'occasion de rentrer en soi-même et de se convertir. Vous donc, soyez miséricordieux et parfaits, comme votre Père céleste est miséricordieux et parfait. Mes frères, par le Notre Père, par l'oraison dominicale, nous nous adressons à Dieu comme à celui qui est au ciel. Mais ne regardons pas ce ciel de Dieu comme éloigné dans les nuées du ciel visible, dans un domaine retiré. Notre Dieu s'est fait homme. Par là, selon le mot du cardinal de Bérulle, il a fait de notre terre un ciel. Il est le Très-Haut, mais il a fait de nous ses enfants par le baptême. C'est en quelque sorte son sang qui coule dans nos veines, et ce bon sang ne saurait mentir. Encore un coup, soyez miséricordieux et parfait, comme votre Père céleste est miséricordieux et parfait. Désirez le bien de votre prochain, se fût-il montré votre ennemi. Que cette bienveillance passe dès lors en bienfaisance. Et s'il ne convenait pas que cette bienfaisance se déclarât publiquement, confiez cependant votre frère dans la prière à votre Père commun, comme il nous y engage par la bouche de son Fils Jésus-Christ. Voilà toute la vie chrétienne. Elle ne consisterait donc rien moins qu'à imiter Dieu dans des œuvres de miséricorde et par une bienfaisance que rien ne peut lasser à l'égard du prochain. Elle ne comprendrait d'autres actes de religion que la seule prière, par quoi le chrétien se tourne vers Dieu comme vers le dispensateur de cet Esprit Saint qui le fait se conduire en véritable Fils du Très-Haut. À l'égard de Dieu, écrivait Monsieur de Saint-Cyran, le premier directeur de Port-Royal, à l'égard de Dieu, un baptisé n'a rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire qu'à demander à Dieu de se donner lui-même et de l'accueillir, puisqu'aussi bien Dieu a promis qu'il ne se déroberait pas à la prière de ses enfants. À ce propos, certains aujourd'hui, s'agissant du christianisme, estime qu'il vaudrait mieux parler de la foi chrétienne plutôt que de la religion chrétienne. Car qu'est-ce qu'une religion, sinon d'abord une pratique humaine qui consiste dans le culte que l'on rend à la divinité? culte dont l'hommage le plus haut est précisément le sacrifice. Si l'on suit l'étymologie de ce terme de sacrifice, on voit qu'il est l'acte par lequel on fait que quelque chose devient sacré. C'est-à-dire que, à la faveur d'un sacrifice, l'homme se dessaisit de quelque chose de son domaine ou de soi-même en faveur de ce Dieu qu'il veut honorer. Mais le christianisme tient d'abord dans ce mot de notre Seigneur à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu ». Ce don de Dieu, nous le savons, c'est la foi qui est le plus grand bien que nous ayons sur cette terre, ou plutôt, oserais-je dire, en cette terre. Car la foi ici-bas n'est qu'un germe, mais un germe destiné à se produire dans le ciel en fruit de gloire, après s'être épanoui dans le monde en fleur de charité. Car aimer de charité les humains, et malgré ce qu'on rencontre en eux de malice, c'est aimer dès ce temps comme aime le Dieu d'éternelle gloire. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, dit le Christ à ses disciples. C'est-à-dire qu'on se dessaisit encore un coup de quelque chose de son domaine, de son temps, voire de soi-même. Mais ce n'est point là cependant sacrifice, mais bien miséricorde. Ce n'est point donner à Dieu, mais aux hommes que Dieu aime. Et ce n'est point donner comme homme, mais c'est donner comme Dieu. Comme Dieu qui, quand il donne, est comme le soleil qui darde ses rayons, disent les pères. C'est-à-dire qu'il ne retranche rien de sa substance. Et quoi, me direz-vous, cet exercice de la charité, n'est-ce pas au contraire ce qui nous coûte davantage? Il est bien vrai, et Jésus-Christ par sa passion, et la Sainte Vierge par sa compassion, l'ont su plus qu'aucun homme ne le saura jamais. Et cependant, nous assure l'apôtre, les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui doit se révéler en nous. Il est vrai qu'aux yeux des hommes, on perd sa vie en la donnant de la sorte. Mais en vérité, assure Jésus-Christ, c'est ainsi qu'on la sauve. C'est-à-dire que, donnant comme Dieu, on devient Dieu. Perdant sur terre une vie qui ne peut que passer, on s'amasse, dit Jésus-Christ, des trésors dans le ciel, et des trésors que l'on possède déjà dès ici-bas par la vertu d'espérance, qui est elle aussi un don de Dieu. Quelle part revient-il donc dans la vie chrétienne pour la pratique des sacrifices? Aucune. Certains se hâtent ici de répondre. Si vraiment par le baptême, nous sommes adoptés par le Très-Haut pour être ses enfants, de sorte que par ce côté-là, nous sommes, mes frères, véritablement des dieux, comme il nous est déclaré par Jésus-Christ lui-même au chapitre 10e de Saint Jean, citant le psaume 81. Et certes, encore un coup, il est absurde à des dieux d'offrir des sacrifices à Dieu leur Père. Et quoi? S'il en est ainsi, pourquoi Dieu avait-il pris soin d'enseigner à Israël, avec ce luxe d'un détail presque infini que nous trouvons au livre du Lévitique, les sacrifices à lui offrir par la main de ses prêtres et la manière exacte dont les prêtres devaient les lui offrir au désert du Sinaï d'abord, puis dans le temple de Jérusalem ensuite? Dans le Nouveau Testament, l'admirable épître aux Hébreux ne nous représente-t-elle pas la passion de Jésus-Christ, sa résurrection et sa session à la droite du Père, sous les couleurs d'un sacrifice qui monte de la terre vers le ciel ? dans l'Église de Jésus-Christ, la source et le sommet de la vie des baptisés, n'est-elle pas cette Eucharistie que l'Église se plaît à appeler le sacrifice de la messe? Enfin, n'enseigne-t-on pas aux chrétiens à faire des sacrifices et même à faire de leur vie entière un sacrifice, d'après ce que déclare l'apôtre saint Paul aux Romains? « Je vous exhorte, mes frères, écrit l'apôtre, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre personne tout entière en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la manière de lui rendre un culte. » À ces objections, ceux qui voudraient bannir du mystère chrétien la pensée même du sacrifice répondent d'ordinaire à la suite de Luther que Dieu prescrivit au peuple élu des sacrifices, certes matériellement conformes à ceux des païens, en vue de l'unique sacrifice de la croix, où Jésus, accomplissant tous les sacrifices, nous aurait par là débarrassé du soin de plaire à Dieu par l'exercice du culte et par toute œuvre de la loi en général. Car pensons-nous donc lui plaire autrement que par le seul titre de fils qu'il lui a plu de nous conférer lui-même et par l'esprit que lui-même répand sur nous et qui fait que nous vivons d'une manière digne de ce titre de fils? Pensons-nous lui plaire autrement que par la foi seule, pour reprendre le mot du célèbre réformateur? Aussi bien, relisez, dit-il, la lettre aux Hébreux. Le Christ a offert pour les péchés un unique sacrifice. Par cette offrande unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Ce serait donc un étrange abus de la part de l'Église romaine que de réputer les messes comme des sacrifices offerts à Dieu pour les vivants et pour les morts. Ce serait attenter contre l'unicité singulière du sacrifice du Christ qui, dans l'Ancien Testament, n'eut pas d'exemple, mais seulement des figures pour l'annoncer et le représenter, et qui, dans l'Église du Nouveau Testament, ne saurait avoir d'imitation. Aussi faut-il considérer à cette lumière le mot de saint Paul aux Romains et se garder de lui donner plus de portée qu'une image. Car parler de la vie chrétienne en termes de sacrifice et de culte, c'est lui faire respirer quelque chose encore de l'esprit des païens et mal entendre la nouveauté de l'Évangile, cette révélation que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Je vous ai retracé ici l'erreur que nous voyons hélas s'être accréditée depuis quelques dizaines d'années jusqu'auprès des fidèles catholiques et dont la réfutation justifierait peut-être assez le propos de ces conférences s'il ne nous suffisait pas de démontrer combien la tradition de l'Église est profonde et sage quand, depuis saint Augustin au moins, elle envisage la Pâque du Seigneur et la Pâque de l'Église comme un unique sacrifice offert à Dieu par Jésus-Christ. Tant s'en faut, en effet, que cette œuvre du culte chrétien attente contre le mystère de la miséricorde, que l'un et l'autre sont puissamment unis dans la personne de notre Seigneur Jésus et dans celle des disciples unis à leur maître. Aussi bien en matière de foi, toujours l'erreur pêche, non par ce qu'elle affirme, et qui est très vrai, touchant le primat de la miséricorde, mais par ce qu'elle nie, ou du moins minimise, je veux dire ici, le sacrifice et sa valeur dans la vie chrétienne. Pour combattre cette erreur, donc, il est bon de convenir avec elle sur ce qu'elle a de fort, de juste et de considérable. Et avant de songer à la repousser par argument et par raison, il convient de nous examiner d'après ce fort qu'elle relève et qu'elle possède, et cela pour hâter notre conversion, en renversant au-dedans de nos cœurs les autels où nous offrons encore au Seigneur des sacrifices à la manière des païens, et regardons ainsi notre Père du Ciel un peu à la manière d'une idole. Aussi bien la fontaine du baptême a fait jaillir en notre âme la vie nouvelle, mais non pas pourtant de telle manière qu'elle y ait éteint la concupiscence, je veux dire cette inclination à un amour des créatures d'où Dieu se trouve exclu, et l'orgueil, je veux dire cette inclination à un amour de soi jusqu'à la haine de Dieu, dit saint Augustin. Cet orgueil où Adam, notre père, s'est précipité pour la perte du genre humain. Notre âme a été revêtue par Dieu de l'homme nouveau, mais il lui faut encore dépouiller le vieil homme et ses convoitises, déclare l'apôtre Paul aux Éphésiens. Or, ce vieil homme qui est en nous est typiquement un païen, et cela se remarque dans la manière dont il offre à la divinité des sacrifices. Si l'on veut voir la vie païenne à nous vivement représentée, il vaut la peine, mes frères, de la considérer dans les anciens romains. Non pas que leur illustration dans l'histoire dût davantage retenir nos regards, mais parce qu'eux-mêmes attribuaient l'étendue de leur empire, non point tant à leur connaissance dans l'art de la guerre et du gouvernement, qu'à ce qu'ils étaient, à leurs yeux, le peuple le plus religieux de la terre, nourrissant un clergé expert en l'art d'offrir aux dieux des sacrifices propres à leur plaire, et d'attirer par là, sur la cité, ces faveurs dont l'éclat a longtemps étonné l'univers. Ces opinions chez les Romains commandèrent pour une part la vindicte dont ils ont poursuivi les chrétiens. Persécution dont la violence et la rage surprend encore, et cela d'autant plus que les Romains se montraient par ailleurs toujours bienveillants à l'égard des religions nouvelles. C'est qu'ils les regardaient en effet comme toutes capables d'accroître encore la prospérité de leur empire, en lui ménageant la faveur de Dieu inconnu jusqu'alors, à qui les nouveaux dévots avaient soin justement d'offrir des sacrifices. Mais l'Église offrait quant à elle à son Seigneur un sacrifice non sanglant, qui, à cause de cela, nous le verrons, ne pouvait passer aux yeux des païens pour un véritable sacrifice. Rien à gagner donc pour la cité de ce côté-là, tout à perdre au contraire, puisque les païens se refusaient à prendre part à un culte que leur foi leur faisait passer pour idolâtre. Il allait donc du salut de l'État d'étouffer une superstition détestable, comme l'appelle l'historien Tacite. Cependant, le sang des martyrs répandu sur la terre en fit lever cette moisson de chrétiens dont le prodige dut un jour gagner jusqu'à l'État lui-même, qui adopta un jour pour sienne la religion des martyrs. Mais il est bien significatif que, lorsqu'on vit pencher cet empire vers sa ruine inexorable, les auteurs encore nourris dans l'ancienne religion attribuaient cette décadence à la désuétude des sacrifices publics et au retrait par là de la faveur des dieux. On pouvait distinguer dans la Rome antique deux sortes de sacrifices, selon qu'ils étaient offerts aux dieux d'en bas, c'est-à-dire aux esprits des morts demeurant sous la terre, ou bien aux dieux d'en haut. Cette distinction s'observe encore aujourd'hui dans les religions dites primitives. Le propos des sacrifices offerts aux dieux d'en bas était de les satisfaire par des nourritures et par du sang. C'est là, estiment certains savants, l'origine religieuse des jeux de l'amphithéâtre, dont l'arène absorbe en effet le sable, le sang qui dégoûte des blessures que se portent les combattants. Et encore aujourd'hui, dans certaines parties de l'Italie du Sud, la coutume subsiste, christianisée, chez les familles, d'aller prendre un repas sur les tombes des morts, à la Toussaint. Jadis, dans la pensée que la nourriture qui tombait ainsi sur la terre, le domaine des morts, leur était agréable. À l'origine, ce n'était pas l'affection pour les parents disparus, mais bien plutôt la crainte des morts qui présidait à cet usage. On redoutait que, faute de les satisfaire par ces offrandes, les esprits des morts ne vinssent hanter les maisons des vivants et ne les rendent inhabitables. C'est ainsi que l'homme païen se conçoit comme le possesseur d'un petit domaine qui est toujours menacé par les puissances divines. Le sacrifice est là pour assurer la clôture de ce petit domaine contre les incursions de ces puissances volontiers envahissantes. On se dessaisit d'un bien qu'on fait passer, si vous voulez, de l'autre côté de la clôture ou de la frontière, et l'on se ménage ainsi ce que les Romains appelaient la Pax Deorum, la paix avec les dieux, qui manifeste en réalité le souhait que les dieux nous laissent tranquilles et nous fichent la paix. Ce soin qui préside au culte des morts s'observe aussi dans le culte des dieux d'en haut, également redoutable. Mais ces dieux-là, il ne s'agit pas simplement de les tenir à distance. Comme ils sont maîtres du monde et de la nature, et qu'ils règlent par exemple l'alternance des saisons de la pluie, du soleil et des vents nécessaires aux récoltes, les humains dépendent de leur puissance quant à leur nourriture et pour tout le cours ordinaire de leur vie. Et c'est ainsi que s'établit un culte spécial, destiné à rendre ces puissances propices et favorables aux cités. Au lieu que les esprits des morts ont au mieux des autels dans les maisons, les dieux d'en haut ont des temples. La consécration d'un temple consiste pour la cité des hommes à se dessaisir d'une portion de son territoire qu'elle tient dès lors pour la propriété exclusive de la divinité. Devant la partie couverte du sanctuaire qui figure la demeure du dieu et la possession qu'on lui a abandonnée sur cette parcelle de terrain, on dresse un autel, d'où coulera le sang de la victime immolée avant que sa chair ne soit brûlée et qu'ainsi subtilisée, elle monte jusqu'à la divinité et lui serve de nourriture. Sans doute trouvez-vous, mes frères, que ces considérations tout historiques sont peu convenables à une conférence de carême. Il est vrai que ces pratiques ont matériellement disparu pour la plupart des endroits. Mais hélas, leur esprit demeure. Dans des conduites que notre siècle avoue, non sans quelque honte, et dont la pratique va croissant. Notre siècle, désormais, ignore généralement jusqu'à la notion même de vie éternelle. On se refuse à l'enseigner dans nos écoles autrement que comme une fable chrétienne. Une enseignante de collège me montrait récemment un projet de programme où les dogmes du christianisme devaient être abordés au chapitre des mythologies. Où donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'était pas considéré autrement que comme les dieux des Grecs et des Romains. C'est ainsi que, sous prétexte de laïcité et de tolérance, on a borné l'horizon des hommes de notre siècle à ce qui se voit et au temps qui passe, à ce qui n'est qu'humain et matériellement humain. Voilà notre domaine. Il est petit. Et malgré que l'astronomie étend notre connaissance vers un au-delà que l'œil ne peut voir, ni l'imagination même concevoir, et qui par là nous semble infinie, ce domaine ne laisse pas d'être petit et borné, puisqu'on exclut qu'on remonte de là jusqu'à l'auteur de ces merveilles, comme disait Pascal. Il est tout comparable par ce côté au domaine des anciens païens que je vous ai décrit. Vous me direz peut-être, suivant Descartes, que l'homme, aujourd'hui, est en passe de devenir comme maître et possesseur de la nature, et qu'il en est même à essayer de la protéger, et qu'il a pu désapprendre avec les progrès de la science à redouter les forces réputées autrefois indomptables. Cependant, cet homme de Descartes, ce n'est qu'une chimère d'homme, et l'humanité n'est pas tout entière dans ses savants. Aux yeux de beaucoup d'autres, la science a le prestige d'un mythe, où nous est promis, si nous nous inclinons devant la raison technicienne, une vie paisible et heureuse, dont nous saurons maîtriser tous les ressorts et avoir raison, même en nous-mêmes, des obstacles à cette paix et à ce bonheur. Mais pour beaucoup d'humains, que de traverses contredisent ce qu'il est de bon ton encore de publier comme une évidence. Et s'il est une évidence, c'est, pour ces pauvres gens, l'évidence du contraire. Nous ne sommes pas les maîtres de notre destinée, et notre empire sur le petit domaine de notre vie n'est pas si bien assuré que cela. Et comme on leur a raccourci la vue, les hommes d'aujourd'hui ne voient pas d'autre royaume que celui-là, depuis le temps qu'on nous assure que le royaume des cieux n'est qu'une invention des curés. Alors, pour leur protéger ce petit royaume, quand les hommes le voient menacé, ils courent, non plus offrir un sacrifice au grand jour, dans les temples des dieux, ce qui avait au moins quelque beauté, mais ils se cachent pour aller consulter devins et marabouts, qui auraient, dit-on, l'art de se concilier les obscures puissances qui ombarent sur notre vie. Chrétien, je vous estime assez d'après ce titre de chrétien pour vous croire étranger à toute cette misère qui se répand de manière, paraît-il, assez considérable et qui signale le mal de notre siècle. Mais, de même que la vraie foi s'est répandue par l'évangélisation des pratiques païennes, le culte des idoles cédant le pas à la vénération des saints, de même il peut se faire en sens inverse que le vieil homme du paganisme, qui ne meurt jamais tout à fait en nous, parvienne à se faire une demeure jusque dans les gestes et les conduites de notre piété chrétienne. La preuve en est que le Seigneur lui-même n'a pas dédaigné de nous avertir la contre. « Quand vous priez, dit-il, ne rabâchez pas comme font les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. » C'est en effet un trait du paganisme que de prêter aux paroles répétées de manière incantatoire la puissance comme d'un sortilège pour fléchir la divinité en sa faveur, de sorte que la prière remplit ici un office tout à fait semblable à celui des anciens sacrifices païens. N'allez pas faire comme eux, poursuit le Christ, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est là qu'il leur enseigne, en effet, l'oraison dominicale. Le Christ ne défend pas qu'on expose à Dieu ses besoins tout matériels. Il nous y engage au contraire. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Délivre-nous du mal. Ce qui s'entend certes du mal du péché, mais aussi des peines qui nous accablent. Ainsi pouvons-nous jeter les yeux sur nous-mêmes et sur ceux que nous aimons, ce que nous avons appelé notre petit domaine et royaume. Mais c'est après seulement que le Christ nous a avertis de ne les considérer que comme une province d'un royaume plus vaste, qui est son royaume, et celui de son Père du ciel. Au lieu que le païen craint par-dessus tout pour son domaine la venue des dieux qu'il regarde comme une invasion, s'il ne parvient pas à la maîtriser par des sacrifices. Le chrétien, au contraire, dit d'abord à son Dieu « Que ton règne vienne sur la terre, et même sur cette portion de la terre qu'est mon cœur et ma vie. » Ainsi, la prière du chapelet, si répétitive qu'elle soit, ne saurait donc être une prière rabâchée, ce qui serait un comble, puisqu'elle contient l'oraison dominicale. Mais notre âme doit avant tout s'y bercer des doux noms de Jésus et de Marie, dont l'incessant retour sur nos lèvres nous incline à chérir la présence en notre cœur de notre Sauveur, que nous présente sa divine Mère. Ne recherchons pas l'intercession de cette Reine auprès du Roi de gloire, en faveur d'abord de ce que nous avons appelé notre petit domaine. Ce serait vouloir restaurer la frontière que les païens veulent tenter d'opposer à leur Dieu. Au lieu que le christianisme consiste, comme on voit par le sacrement de l'autel, dans le mystère de cette présence réelle de Dieu à l'homme, par-delà l'abîme qui s'étend entre le souverain de l'univers et sa créature. Ne nous dérobons jamais au mystère de cette présence. Conspirons-y de tout notre cœur et rendons-nous nous-mêmes présents à celui qui a voulu, par les cérémonies du baptême, se faire l'époux de nos âmes. La crainte de Dieu que la sagesse enseigne et qui est un don du Saint-Esprit est en effet toute différente de cette peur spontanée et panique que les païens éprouvent à la pensée des puissances qui nous entourent et qui nous menacent. Nous avons reconnu dans cette peur des dieux le ressort du sacrifice païen. Nous aurons lieu de distinguer dans l'autre une part de l'esprit qui préside au sacrifice que l'Église de Jésus recommande à ses enfants. En effet, selon le mot de Mère Teresa de Calcutta, à Noël, Dieu s'est fait enfant pour que personne, en le voyant, n'ait peur de lui. En mettant ici, mes frères, un terme à ce discours, je m'avise n'avoir qu'à peine abordé le sujet que je me proposais du sacrifice chrétien, ayant en revanche beaucoup accordé à ceux qui en contestent la valeur et la pertinence et voudraient ne reconnaître du mystère chrétien que la miséricorde divine qui se donne à imiter à l'homme. Je ne saurais pourtant leur laisser devant vous un entier avantage jusqu'à la suite de ces conférences. Car s'il est vrai que les chrétiens ont part à la divinité du Seigneur en étant miséricordieux comme leur Père est miséricordieux, il est vrai aussi que c'est en ayant part à l'humanité du Sauveur, c'est-à-dire à l'humanité de ce Jésus, que l'Écriture nous dit avoir offert à Dieu un sacrifice par sa passion, sa mort et sa résurrection d'entre les morts. Il l'a offert, dis-je, ce sacrifice, non seulement de manière singulière, mais aussi comme tête de tout le corps de l'Église dont nous sommes les membres. Comment le corps et les membres pourraient-ils demeurer étrangers à ce mystère ? Aussi bien, la contemplation de ces divers aspects nous occupera-t-elle pour tout le reste de ces conférences, puisse-t-elle n'être pas trop indigne de votre audience et surtout du Seigneur dont on m'a confié la charge d'annoncer l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.